Eh bien voilà, nous arrivons maintenant au terme de notre découverte de .NET 9. Alors prenez vos cachets d'aspirine parce que cette fois-ci on va attaquer directement C# 13, la BCL, les outils de tooling et le SDK. Bref, on va aller au plus profond de .NET. Allez, c'est parti! Bien, et ben bonjour et bienvenue pour ce dernier épisode sur les nouveautés de .NET 9. Alors aujourd'hui, prenez vos cachets d'aspirine puisqu'on va parler des
Non.
nouveautés de C-Sharp et de la Base Class Library et du .NET SDK, enfin de tout ce qu'il y a de neuf dans le moteur de .NET. Et pour ce faire, on a deux personnes qui nous ont rejoints. On a venant du Canada Gérald Barré, bonjour.
Salut.
Microsoft MVP, catégorie développeur technologie depuis 2020 et auteur du fameux blog maisontout.net, où il y a plein de petites astuces. Je conseille à tout le monde d'aller le voir. Et nous avons un spécialiste de C-Sharp, en la personne de Patrick Smakia, bonjour.
Salut.
CEO de Ndepend et donc qui vend le logiciel du même nom, Ndepend. J'ai vu d'ailleurs que pendant la .NET Conf, il y avait une session sur Ndepend
Moi, à
qui avait été jouée.
Singapour, il en a parlé, c'est intéressant.
Ouais,
On a des
oui.
clients à Singapour, j'aime bien là-bas les gens.
Il a pas dit trop de bêtises dessus?
Non, ça va, non, non, c'est
Ça
très
va?
bien. Non, non, je regardais, j'ai pas tout compris, l'accent chinois, des fois, ça partait un peu. Mais bon.
Bien, eh ben on va attaquer tout de suite donc avec les nouveautés de C-Sharp 13. La première chose, Patrick, tu voulais nous parler des semi-auto-properties.
Voilà, alors ça fait partie, on a C-Sharp 13, hein. C'est à peu près toutes les versions qui améliorent un petit peu, enfin qui rajoutent un petit quelque chose sur les propriétés, donc les propriétés getSet, hein, qu'on
Ouais.
utilise tout le temps. Donc là, en fait, ils ont rajouté une petite syntaxe sympa. Semi-auto-property, ça fait un peu un nom savant, moi, je ne sais pas, peut-être je l'aurais appelé autrement, mais simplement, ça veut dire qu'on peut utiliser le keyword C-Sharp field dans le get et le set, donc dans le body des méthodes, hein, ou des lambda, puisque ça peut être aussi des lambda, des get et des set, on peut utiliser le mot-clé field pour faire référence au background field. Comment on l'appelle déjà? C'est pas background field, c'est
Baking field,
backing field, backing field.
backing, oui.
Donc comme vous savez, quand on a get set, quand on met juste getSet avec un point-virgule directement, sans body, ça, le compilateur C#, si on n'est pas dans un cas abstrait, bien sûr, le compilateur C# derrière, il nous crée le backing field. Okay. Le gros avantage de faire getSet, soit dit en passant, c'est de pouvoir mettre un breakpoint dessus. Comme ça, on voit quand est-ce qu'on accède à notre champ en accès écriture ou lecture, les deux selon que tu mets ton breakpoint. Donc là, maintenant, tu peux rajouter un body et dedans, tu peux mettre field. Comme ça, tu n'as pas besoin de déclarer toi-même ton champ. En général, underscore, le nom de la propriété. Juste une petite limitation que j'ai vue, c'est que, par exemple, si dans le set, tu mets field, enfin, si dans l'un des deux, tu utilises field, ben, l'autre, il ne peut pas être juste déclaré avec un point-virgule. Il va t'obliger à mettre. Sinon, il ne sait pas si c'est abstrait ou pas. En fait, il sépare. Donc, soit les deux sont soit ta get point virgule, set point virgule, okay, soit tu as les deux avec du body. Ou alors, sinon, tu n'en as qu'une seule, si tu es read-only ou write-only.
Ouais.
Donc, petite feature sympa qui va économiser quelques keystrokes,
Ouais.
quelques. Je ne sais plus le dire, là,
C'est
je fais mon Jean-Claude Van Damme.
pour les feignants, ça.
Voilà, exactement.
Et puis un petit détail, c'est dans C-Sharp 13, cette feature-là, elle est encore en preview. C'est-à-dire pour pouvoir l'utiliser, il faut utiliser dans son CS Pro, il faut mettre Lang Version Preview, pas 13, là.
Ah
Parce
bon?
que, ouais, parce qu'il y avait, je
Au
pense
jour
que,
d'aujourd'hui?
ouais, il y avait, de ce que j'avais vu dans les discussions Roselyne, parce que je suis un peu ce qui se passe dans les issues, là. Ils se traitent jusqu'à vraiment la fin, il y avait encore des changements sur comment les types nullables sont gérés sur le keyword field. Et je pense pour ça, ils sont peut-être pas encore 100% sûrs que comment ça doit interagir avec Field,
Ah
avec
bon,
le keyword
c'est
Field.
la première fois que j'entends que ça déborde sur. Puisque là, c'était quoi la présentation? C'était vers le 17 novembre, par là. Là, on est le 3 décembre, donc ouais,
Mais il y
quand
avait
même.
encore les discussions en octobre, il y avait des discussions sur comment ça gère les team du label. Donc, je pense, pour être juste sûr, ça ne veut pas dire que la fonctionnalité ne marche pas et qu'on ne peut pas l'utiliser. Honnêtement, il n'y a jamais de problème. C'est
Il y a
en
des edge
créateur,
cases.
quand ils font des choses, ça marche très bien, là. C'est juste pour être sûr que si jamais ils se disent, ah, finalement, on s'est un peu trompé sur les team du label, bah, ils n'ont pas, c'est figé là, ça dans le langage, quoi.
Ok, très bien. Okay. Donc, un cas limite.
Ouais, c'est vrai que en plus, c'est une feature qui ils en discutent depuis un certain temps. Je crois que dès la fin de C-Sharp 11, ils en parlaient déjà de
Ouais,
cette
quasiment
possibilité
toutes les
d'essayer.
features prennent plusieurs années à être implémentées. Le temps de déjà trouver c'est quoi le bon design là, c'est parce que bah, alors que c'est le keyword field qu'ils veulent utiliser, parce que ça pose plein de problèmes. C'est déjà un field qui s'appelle field. Tu fais quoi? Est-ce que tu le réutilises? Ce genre de choses. C'est pour ça que techniquement, ce ne sont pas des
Oui,
keywords, mais
on ne l'a
les.
pas mentionné, mais il n'empêche que ça veut aussi dire que si tu ne crées pas ton champ, ça veut dire que ton champ, tu ne peux pas l'utiliser ailleurs que dans ta propriété. Ça fait. Donc du coup, ça
C'est
permet de
mieux scopé.
scoper le truc, de vraiment de dire bah, tu l'utilises que dans ce cas-là. Ça aussi, ça, en fait, c'est quand même assez important à préciser. Et tu ne peux pas l'utiliser. Donc, en fait, des fois, tu as envie d'avoir le fil dans les méthodes et des fois pas.
Ok, bien, on va avancer. Gérald, en C-Sharp, tu voulais nous parler de quoi?
Ouais. Il y a une petite fonctionnalité qui ne va peut-être pas servir à grand monde en dehors des équipes de .NET, là, mais c'est ce qu'ils ont appelé les Overload Resolution Priority, donc pouvoir changer la façon. Enfin, en gros, quand tu appelles une méthode qui a des. En français, je crois que c'est surcharge, ça, overload. Ouais, on va essayer de le faire un peu en français pour te faire plaisir, Richard.
Oui, merci.
On sait que tu as toujours une petite aversion au mot anglais. Mais en gros, quand tu appelles une méthode, bah, le compilateur va trouver la méthode qui correspond le mieux aux arguments que tu passes. Et parfois, bah, tu as des choses que tu aimerais pouvoir lui donner un peu plus d'informations pour dire bah, préfère plutôt cet overload-là plutôt que l'autre. Typiquement, un exemple qui a été la source d'inspiration pour cette fonctionnalité-là, c'est par exemple quand tu utilises une méthode style debug.assert, qui avait une version qui existait avec juste un booléen, donc debug.assert ta condition. Ils avaient rajouté après coup une autre méthode, genre debug.assert ta condition et une string, avec un paramètre optionnel. Ce qui fait que si tu passes juste une condition et le paramètre optionnel, ça correspond à prendre l'expression du premier argument, en fait. Donc en termes de debug, ça donne beaucoup plus d'informations sur. Au lieu de juste dire ta condition a failé, tant pis, bah, ta condition a failé, voilà l'expression de ta condition. Donc c'est vraiment intéressant de pouvoir utiliser cette méthode-là. Mais le problème, c'est que si tu appelles juste debug.assert avec une condition, bah, le compilateur il va prendre la méthode qui correspond le mieux à ce que tu passes et donc la première qui n'a pas le paramètre optionnel. Et donc là, maintenant, on peut rajouter un attribut sur la méthode pour lui dire bah, cette méthode-là, elle est plus prioritaire que l'autre. Si jamais tu as le choix entre les deux et que les deux correspondraient, prends celle qui est la plus prioritaire et tu peux lui dire laquelle c'est. Donc ça permet d'utiliser la nouvelle méthode. Donc ça prend le temps de recompiler les applications pour utiliser la nouvelle sémantique. Mais ça peut donner plus d'informations en certains cas et surtout pour éviter les breaking changes. Donc c'est pour ceux qui font des librairies principalement et qui
Oui,
veulent
j'allais
rajouter
dire,
ce genre
oui.
de comportement là sans faire un breaking change.
Ça veut dire que si tu recompiles du code où t'as rien touché, ben derrière, potentiellement, tu vas être bindé vers autre chose.
Totalement, ouais.
D'accord. Ok, c'est intéressant.
Ok, bon, ben, j'avais pas vu ça du tout à l'intérieur.
Ouais, non, moi non plus.
Comme quoi, tu sers à quelque chose, Gérald.
Ah, merci, merci.
Ouais, c'est sympa.
C'est pour ça que je suis invité aussi de temps en temps.
Alors, dans la même veine. J'ai envie de parler du mot-clé params. Alors, je ne sais pas s'il y a beaucoup qui l'utilisent. Donc, en fait, params, c'est quoi? Ça existe depuis C-Sharp 1, vraiment la toute première version. Ils avaient dû trouver ça sympa. Bim, ils ont mis params. Donc, en fait, params, c'est simplement qu'on peut mettre un nombre indéterminé de paramètres à une méthode. Et qu'est-ce qui se passe derrière depuis le début, hein, depuis C-Sharp 1? Il va nous créer un tableau, donc un array d'objets. Et il va fourrer tous les paramètres dedans. Et dans le body de la méthode, on va se retrouver avec un array. Donc on a la syntaxe est param avec l'array. On va se retrouver avec l'array. On pourra par exemple itérer sur les éléments de l'array, les traiter un à un, faire une somme, etc. Donc ça a marché comme ça jusqu'en C-Sharp 12. Mais il y a un petit souci avec ça qui fait que perso, moi, j'ai jamais. J'essaye de ne pas trop l'utiliser, c'est que, ben, mine de rien, la création d'un array au runtime, ce n'est pas gratuit. Okay, c'est déjà, il faut créer un objet sur sur le tas, sur le heap, qui va derrière, ça veut dire qu'il va devoir être garbage collecté à un moment donné. Puis moi, ça me gêne de créer ça me gêne de créer un objet juste pour quand j'appelle une méthode. Quand on appelle une méthode, c'est quelque chose qui doit être rapide. Ben là, quand même, tu te prends la création d'un objet, et puis derrière, le garbage collector, il va encore travailler. Donc, ça veut dire que si tu appelles ta méthode dans un loop, ben, tu vas créer plein
L'objet.
d'arrêts à chaque fois, tu vois. Donc, c'est un peu embêtant. Donc, ça, c'était une feature pas finie. Alors, dans C-Sharp 13, ils ont réussi à la finir. Donc, ils se sont un peu inspirés de quelque chose qu'il y avait dans C-Sharp 12, un peu des collections expressions. C'est-à-dire qu'en fait, tu peux passer ce qu'un read-only span, c'est-à-dire que tu peux déclarer ta méthode avec params, et derrière, au lieu de mettre un array, tu peux mettre un read-only span. OK. Alors, on va en reparler. D'ailleurs, on en reparle chaque année du span, parce que c'est toujours ces histoires de ref. Hein. Ça aussi, c'est un truc qui existait depuis le début, et puis que maintenant, ils mettent à toutes les sauces. Donc, en fait, l'idée de derrière tout ça, derrière le mot-clé ref, qu'on retrouve un petit peu partout, ref field, ref struct, etc. C'est simplement qu'on va utiliser la pile, donc la pile du thread, à des moments où avant on était obligé d'utiliser le
Le hip,
tas.
ouais.
Voilà, lui. Et l'avantage, ben, simplement, ça fait d'ailleurs sens quand on appelle une méthode d'utiliser la stack du thread, puisque c'est comme ça qu'on l'utilise quand on fait un passage de paramètres. Quand tu l'appelles avec une string et un entier, ben, la référence de la string, elle est copiée sur la stack et. Pardon, la référence de la string est copiée sur la stack et la valeur de l'entier est aussi copiée sur la stack. Donc, et après, quand tu reviens sur la méthode appelante, ça dépile tout ça, tu n'as pas eu d'objet, c'est hyper rapide, c'est hyper efficace. Donc, là, cette efficacité, maintenant, on arrive à l'avoir avec le params keyword. Et pourquoi? Parce qu'en fait, on utilise le read-only span. Donc, le read-only span, c'est une restruct. Donc, ça veut dire que c'est une structure qui ne peut vivre que sur la pile du thread. OK? Donc, chaque fois que vous entendez parler de span et de ref et de read-only span, ça veut dire que vous allez utiliser essentiellement la pile pour éviter des allocations. Donc là, maintenant, avec ça, ils arrivent à éviter des allocations. Donc là, il y a des histoires de résolution, un petit peu comme ce que tu disais avant, Gérald, parce qu'en fait, il va y avoir des collisions avec des méthodes. D'ailleurs, les deux features doivent être plus ou moins imbriquées, je pense. Je pense, je n'ai pas regardé, mais je pense que dans la BCL, ils ont
Ouais,
dû
totalement, ouais.
annoter. Quand tu peux utiliser le read-only span, utilise-le, c'est mieux, parce que comme ça. Et de la même façon qu'on parlait au début, il suffit de recompiler ton code, et au lieu de rediriger vers la méthode qui va créer des arrays avec params, ben ça va pas créer un array. Et pour la petite histoire, j'avais décompilé pour regarder un peu ce qui se passe, et en fait, ça crée des arrays fixes, quelque chose qu'on avait dans C-Sharp 12. Donc, simplement un array de taille fixe, puisque au moment où tu compiles, tu sais le nombre de paramètres que tu as. Tu en auras 7, 10 ou 15. Donc, ça va créer un array de taille, pardon, un array span, on va dire, de taille fixe que tu peux passer sur la pile. Donc, c'est comme ça que la magie opère. Et juste pour terminer sur cette feature, en C-Sharp 12, tu avais des collections expressions qui sont très sympas. Donc, simplement, tu peux avoir un read-only span très rapide avec deux brackets. Et dedans, tu mets 1, 2, 3, 4. Ben, en fait, tu pouvais utiliser ça pour simuler le passage vers une méthode qui accepte un read-only span. Tu vois ce que je veux dire? Ta méthode, qui n'est pas params, hein, c'est du C-Sharp 12. Ta méthode, elle n'est pas params, mais elle appelle un read-only span, ben, du type que tu veux, par exemple d'entier. Ben, tu pouvais appeler ta méthode avec juste les deux brackets. Ben, maintenant, avec ça. Dans la déclaration de la méthode, tu mets params et tu n'as plus besoin des brackets quand tu l'appelles.
Il l'a fait pour toi.
Et techniquement, c'est
Pardon?
pas juste pour les read-only span, c'est aussi pour tous les types de collections qui sont compatibles avec les collection expressions,
Oui,
donc les
bien sûr.
enumerables ou ce genre de choses. On peut faire un
Et ils ont un peu
params enumerable.
modifié la BCL, j'ai vu. Pour l'instant, il y en a peut-être qu'une trentaine, du type string, concat, etc. Les méthodes de la BCL qui acceptaient du params, ben maintenant, ils ont aussi une surcharge qui accepte le read-only span aussi, ou des types compatibles.
Ok. Bon. Donc, ça, c'était donc pour. Ça y est, j'ai perdu le truc. C'était pour les.
C-Sharp 13 params.
Ouais, pour les params. Et pour les refs trucs.
Alors, les Let's Truc, donc on continue. Donc, petite amélioration, comme chaque pas. C'est comme les propriétés depuis C Sharp 7, chaque fois ils nous font le coup, ils nous rajoutent un peu de restruct à droite à gauche. Donc cette fois-ci, ils rajoutent pour la première anti-constraint générique. Donc vous savez, on a les génériques constraints. Par exemple, on peut appeler un constructeur vide, ou alors ton objet c'est obligé d'être une
Une
référence,
classe,
une classe, ou alors c'est
ouais.
obligé d'être une struct, etc. Ou alors la plus courante, hein, c'est obligé d'implémenter une interface. Comme ça, tu peux utiliser tes types génériques. Ben maintenant, sur un type générique, tu peux lui rajouter l'anti-constraint. Donc, c'est une anti-constraint, pas une constraint. Allows refstruct. Donc, ils ont dû beaucoup réfléchir. Ça a dû bien les embêter de mettre trois mots comme ça, mais ils ne sont pas arrivés à quelque chose de mieux. Donc, en fait, ça veut dire que tu peux mettre un refstruct à la place de ton type paramètre générique. Et pourquoi donc, c'est une anti-constraint parce qu'en fait, ça veut dire que tu rajoutes quelque chose. Toutes les autres, elles ont enlevé quelque chose. Ça veut dire que je te force à implémenter une interface, donc tous les autres, ils ne vont pas être bons. Je te force à être une classe, donc tous les autres, ils ne vont pas être bons. Okay? Et là, pour la première fois, ils rajoutent quelque chose ils mettent une constrainte qui rajoute quelque chose. Donc, ils appellent ça une anti-constraint. Donc, ça a l'air tout bête, mais mine de rien, ça permet de passer des spans et des read-only spans. Okay? Tous ces types compatibles. Et comme ces types sont très à la mode en ce moment, c'est intéressant. Alors, j'ai trouvé dans la BCL, donc .NET 9, un cas d'utilisation de ça, qui est le Alternate Lookup for Dictionary. OK,
Oui.
donc qu'est-ce que c'est? Oui, excusez-moi pour mon anglais, j'ai jamais eu un bon accent. Je fais la leçon aux enfants, là, je fais comme je peux, mais. Mais ils ont meilleur accent que moi, ça c'est bien. Ils font l'école en anglais, ça c'est mieux que moi. Donc, l'alternate lookup, en fait, ça veut dire que tu peux donner un type compatible avec ton type clé. Alors, l'exemple le plus bateau, bien entendu,
C'est
si
sur les
ton type clé,
dictionnaires.
c'est des strings. Pardon?
C'est sur les dictionnaires, ça.
Sur les dictionnaires, ouais,
Ouais,
dictionnaire,
ouais.
oui, dictionnaire. Donc, sur les dictionnaires, très souvent, tu as des dictionnaires avec le type clé qui est string. OK? Et là, tu peux lui passer ben, read-only char à la place
D'accord.
de string. Et pour rappel, quand ils ont introduit. Non, qu'est-ce que je dis? Read-only span de char. Excuse-moi. Read-only span de char. Et pour la petite histoire, pour rappel, quand ils ont introduit ça, read-only span de char, ça devait être il y a 5 ans, 6 ans, quelque chose. 5 ans, je pense. Ben, il y a des milliers de méthodes qui ont été rajoutées dans la BCL. Parce que toutes les méthodes qui prenaient des strings, bah maintenant, elles prennent aussi des read-only char,
Ouais.
des read-only span de char, pardon. Donc là aussi, pour rappel, le read-only char de span, c'est quoi? Ben, c'est quelque chose qui ressemble à une string, c'est simplement des caractères contigus en mémoire. Okay? Et l'énorme avantage que tu peux avoir avec ça, c'est que ben, ça peut t'éviter, par exemple, de faire des substrings. Imagine que tu as plein de clés possibles. Toutes ces clés, tu les balances dans une énorme string, par exemple, qui fait 4 kilos, moi, j'en sais rien. Et en fait, les sous-strings, au lieu de faire substring, tu peux dire, ah ben non, moi, je veux un read-only span de char de l'index 1300 avec un offset 16, par exemple. Tu vois, ça t'évite d'allouer une string. Et là, comme pour toutes les fois avant, le fait d'avoir des alternate lookups sur des read-only span de char, ça te permet de donner une clé sans forcément avoir à faire un substring.
D'accord.
Tu vois ce
Une
que je veux dire?
allocation, quoi.
Une allocation, oui, voilà, toujours pareil, éviter de faire une allocation. Et donc, tu peux récupérer. Donc, il y a quelques méthodes qui ont été rajoutées pour ça au dictionnaire. Ça veut dire qu'en fait, tu vas te récupérer une struct qui est donc dictionary ticket et value, plus hein, ou point, puisque c'est un sous-type public, un type nested. Un type encapsulé public qui s'appelle Alternate Lookup, donc du nouveau type clé qui peut être read-only span de char. Okay. Et bien sûr, ils l'ont fait d'une manière où c'est. J'ai écrit un blog, on mettra tous les liens dans la vidéo, enfin, dans la description. Je me suis amusé à utiliser ça pour voir comment on peut étendre à ses propres types à soi. Ça peut être intéressant, par exemple, tu as un type personne. Des personnes, tu as des guides par exemple, chaque personne a son guide. Ben, au lieu d'aller chercher dans ton dictionnaire par une instance de personne, ben, tu peux te débrouiller d'aller chercher par une instance de GUI. Tu vois, ça, qui est une valeur d'ailleurs de GUI.
D'accord. Ok, bon, ça c'est vraiment de l'optimisation
Ah oui,
pour les
ils font
performances.
ça à fond. Eux, derrière, ils l'utilisent. Tout à l'heure, d'ailleurs, je parlais d'une autre optimisation. Ils sont très, très axés pour optimisation grâce au grand Stephen Toube.
Ouais.
Donc, tout le monde aime bien Stephen Toube. Il est là depuis très longtemps. Je me souviens, ça faisait il y a 20 ans déjà, il écrivait dans MSDN Magazine. Donc, c'est le super ingénieur en charge des performances qui, chaque année, te crée environ plus de 1000 performance improvement dans la BCL ou dans le runtime ou les deux. Et enfin, bon, en tout cas, il chapeaute le truc. Chaque année, il nous pond environ 200-300 pages où il explique tout. Et pour la petite histoire, c'est intéressant, avec Scott Hanselman, ils ont fait une dizaine de vidéos sur YouTube qu'ils appellent Deep.net. Okay. Maintenant, Scott Hanselman, il fait un peu des infidélités, il va aussi avec d'autres gros gars comme lui. Mais celle avec Stephen Toole, je les ai toutes regardées, c'est super intéressant. Tu apprends plein de trucs et. T'apprends plein de trucs sur la façon d'utiliser .NET, sur la façon d'y designer. C'est des grosses vidéos d'une heure, une heure et demie, mais très intéressantes sur Span, sur Link. À chaque fois, il déconstruit le truc, il dit pourquoi on a fait comme ça. Et en fait, il remonte, il remonte, il remonte, et c'est super intéressant. Donc, je fais un peu la pub là, c'est gratuit, hein, mais c'est très intéressant pour ceux qui veulent un peu, qui sont déjà assez experts et qui veulent aller encore plus loin. C'est vraiment les vidéos qu'il faut regarder.
Et c'est vrai qu'en plus, il intervient dans les projets de façon très concrète. Je sais que par exemple, dans Sémantique Kernel, de temps en temps, on le voit apparaître et il fait des petites corrections pour s'assurer qu'il y a les optimisations au niveau performance qui sont bien utilisées à l'intérieur de la librairie.
Ouais.
Bien, bah on va continuer après ces rêves trucs.
Ouais,
Gérald,
on
toi.
peut rester sur les rêves strict un tout petit
Ah,
peu.
oui.
On va pas les quitter trop 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 loin, mais c'est pareil, c'est finaliser des fonctionnalités déjà existantes, on va dire. Donc en gros, les rêves strict, comme elles doivent rester sur la pile. Ouais, c'est dur de faire les transitions en français en live là. On est
Ouais,
tellement
et moi
habitué.
aussi.
Elles doivent rester sur la pile. Donc, le compilateur doit donner cette garantie-là. Et donc, il interdit des cas d'usage. Bah, quand il sait que ça va pas, enfin, qu'il devrait faire une allocation, si tu castes ou si tu fais des choses comme ça, il doit faire une allocation. Et donc, il va de l'interdire parce que tu as dit que tu voulais pas ça. Et donc, bah, ils ont été un peu. Comment dire? Ils ont coupé un peu les coins ronds, là, en disant, bah, allez, par exemple, toutes les méthodes async, comme on ne sait pas trop et qu'il risque d'y avoir des allocations là-dedans, on va interdire les usages dans ces méthodes-là. Donc là, cette fois-ci, ils ont finalisé la fonctionnalité en disant on peut être un peu plus précis que ça. Et donc, bah, tant, tu peux utiliser des refs. Maintenant, on va pouvoir utiliser des refs struct tant qu'on n'a pas de await au milieu de l'usage, il n'y a pas de souci, est-ce qu'on reste sur la même méthode techniquement. C'est la façon dont ça va être réécrit, là, ça reste dans la même méthode. Donc, on peut les utiliser dans ce contexte-là. Donc, tu vois, c'est plus finaliser la fonctionnalité en autorisant un peu plus de cas que où on est safe. Et donc, ça va réduire des petits problèmes, parce qu'avant, pour pouvoir faire ça, il fallait faire potentiellement une autre méthode ou une fonction locale. C'est un peu désagréable, hein. Maintenant, on va pouvoir l'utiliser plus simplement, là. Encore une fois, ça ne concerne sûrement pas grand monde, mais c'est agréable. J'ai vu un cas d'usage dans mon code où je pouvais le changer. Je fais, ah, tant mieux.
J'en profite qu'on est toujours sur RefStruct. Un petit truc que je n'ai pas dit intéressant, c'est que quand tu fais AllowsRestruct, OK? Ta RefStruct, elle peut implémenter une interface. Et tu, non, elle peut pas implémenter une interface. Mais non, ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas de boxing. Okay, quand tu utilises une RefStruct en type générique paramètre, okay, tu peux te dire, ah, mais il va y avoir un boxing. Ça veut dire qu'à un moment donné, ta RefStruct, elle va être mise sur la heap, ce qui est totalement impossible. C'est vraiment impossible. Encore une fois, il y a une vraie raison derrière, c'est parce que ça fait appel à quelque chose qui est très profondément ancré dans le CLR, qu'ils appellent les pointeurs gérés, qui ne sont ni des références ni des valeurs. Et les pointeurs gérés, c'est impossible qu'ils soient sur la heap, sinon il y a tout qui explose. Parce que les objets sur la heap, ils sont bougés quand ça concatène. Et pour éviter ça, en fait, il y a quelque chose, comme les génériques en .NET sont très bien faits. En fait, les structs, tu peux les utiliser sans boxing seulement quand c'est des types génériques, quand tu l'utilises à partir d'un type générique. Donc, faudrait peut-être montrer le code, mais bon, là, je ne vais pas partager mon écran. Mais tout ça pour vous dire que ça marche bien. Ça. C'est bien foutu.
Ok. Bon, c'est bon, les rêves trucs, on peut les oublier maintenant?
Ouais, je pense qu'on va passer sur les choses peut-être plus utiles pour les gens, là, si tu as envie. Peut-être qui ont un usage un peu plus large, mais par exemple, on peut parler des locks, des nouveaux types, système trading lock, qui a été introduit. En général, aujourd'hui, quand tu veux faire quand tu veux introduire un lock un peu global, tu fais souvent un objet. C'est vraiment un type, genre une variable de type object.
Ouais,
Et
new
donc, tu perds
object.
un peu assez. Ça, tu perds la sémantique de bah, c'est quoi cet objet-là réellement? Donc, ils ont introduit un nouveau type, System Trading Lock, et le compilateur le comprend, ce type-là. Et donc, il y a une logique un peu différente pour comment dire, pour le convertir en vrai, en code final. Là. Et techniquement, ils disent que c'est un peu plus performant. À la limite, c'est peut-être pas le plus important. Je trouve que c'est vraiment la logique de la sémantique que tu donnes. Tu as un objet qui a vraiment un type lock. Et donc, c'est beaucoup plus compréhensible de bah, pourquoi tu vas l'utiliser. Mais il se trouve qu'en plus, c'est censé être légèrement plus performant. Là.
D'accord. Ce type lock, il y a des paramètres ou pas?
Non.
Non, pas du tout, parce que ouais. Bon.
Il n'est pas générique non plus. Hein. Il n'est pas générique.
Non, non. Non, c'est vraiment pour. En gros, quand tu avais écrit New Object, tu écris New Lock à la place. Voilà. Tu as
Donc
la même
c'est une
sémantique
classe, hein.
derrière.
C'est un
C'est une
objet.
classe, ouais.
D'accord. OK.
D'accord.
Et
OK.
qui a des méthodes dedans, par exemple, tu as une méthode underscore, je crois, qui elle renvoie struct, parce que voilà, performance sûrement, tout ça là.
Dans les nouveaux types, Gérald, t'en avais
Dans
un
les
autre?
nouveaux types, tu veux dire dans .NET?
Ouais.
Ouais.
Puisqu'on. À moins que sur C Sharp, vous aviez encore d'autres choses, mais.
Il reste, je
Ouais.
pense, un tout petit improvement qui est genre un escape dans les strings. Là, tu peux faire
Ouais.
backslash e. C'est pour ceux qui font de l'encoding en C pour la console, potentiellement, ça peut être utile. Parce que si tu vois tous les exemples sur Internet, il y a toujours backslash e et un code derrière là, pour mettre de la couleur ou des choses comme ça. Bon, ce sera plus simple à copier-coller, mais bon, ça change pas le monde là.
Ouais.
S'entend. Mais ouais, donc dans .NET, il y a plein de petites nouveautés qui ont été introduites. Par exemple, bah, il y a des améliorations sur le JSON, par exemple, désérialisation JSON principalement. Ou si tu mets une propriété tu la marques comme required, par exemple public required string name, bah, si cette propriété-là n'est pas dans le JSON, tu auras une erreur à la désérialisation. Il va te dire que bah, le JSON ne matche pas ce que tu as dit. Ce pire qu'elle ne peut pas être nulle. Hein. C'est required, c'est juste elle est présente. Et tu as une autre partie qui a été introduite aussi, qui est le respect des types nullables. Donc, si ta propriété, tu la marques comme non nullable en C-Sharp, si tu désérialises quelque chose et que c'est nul, tu as une validation qui est faite. Et donc, ça permet d'avoir un schéma qui correspond mieux, enfin, une validation pour être sûr que tu désérialises pas n'importe quoi. Donc, je trouvais ça assez intéressant.
Il y a également des nouvelles options pour la sérialisation, des possibilités de nouvelles options. Notamment sur oh là, le retrait,
L'indentation, ouais.
voilà, voilà,
Donc
ce
des
genre
choses
de
qui servent
choses.
quasiment à rien, on va dire. Parce qu'en
Oui.
général, quand tu sérialises, si tu es en debug, tu peux mettre un
Oui.
indent, puis bon, ça rend joli, là. Mais en général, tu sérialises quand même sans indentation, que bah, c'est de la place pour les raisons de performance, là. Donc
Oui,
vraiment,
puis.
si tu écris un fichier, bon, je suis pas sûr que ce soit très. Enfin, j'arrive pas trop à voir l'utilité. L'indentation par défaut correspond quand même pas mal à ce qu'il y avait. Ce qui est admis comme étant la coding standard, on va dire.
Si tu as l'option web par défaut, je sais plus, JSON option point web, où là, tu as le camel case qui est ajouté automatiquement, quoi.
C'est ça, ça t'évite de le refaire toi-même. C'est pas
Ouais.
une. Enfin, tu étais déjà capable de le faire, on va dire. C'est juste une simplification. Je crois qu'il y a aussi le support des. Comment dire? Des énums en tant que string, là où tu peux changer la valeur attendue maintenant. On peut dire que si tu as une valeur d'énum qui s'appelle Toto, bah, tu peux mettre une attribut au-dessus pour dire bah, quand tu le sérialises, écris pas Toto, mais écris patate à la place. Voilà. Pareil pour désérialiser. Ça, bah, ça évite un converteur custom là, que beaucoup de gens avaient, je crois. Petite chose intéressante, là, comme d'hab. Ils améliorent JSON à chaque version. Là.
Ouais. Ah, tu as aussi un schema exporteur
Ouais,
qui permet de.
ça c'est pour le. Notamment, bah, ils ont fait des améliorations dans ASP.NET Core pour. Ils voulaient enlever une dépendance sur. Je crois que c'est Swagger.
Oui, ils
Swagger,
l'ont
je ne sais
enlevé,
plus
oui.
le nom du package là. Ils voulaient enlever ça, donc bah, ça implique de pouvoir générer un schéma. de ton objet. Et donc, bah, ils ont introduit cette fonctionnalité-là dans .NET où tu peux créer le schéma JSON pour un objet donné, un type donné, donc via le JSON Schema Exporter. C'est, on va dire que c'est plus pour ASP.NET Core que ça a été fait que pour être dans .NET en tant que tel. Mm-hmm. Je trouve que c'est la place logique pour le mettre, donc c'est accessible à tout le monde. Là.
Oui, d'ailleurs, dans les templates, maintenant, il y a la possibilité de plus prendre Swagger par défaut comme générateur de documentation.
Après, il y a des limitations. C'est pas du 1 pour 1. Là. C'est pas change et ça marche. Là. C'est, faites attention si vous migrez. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas marcher, mais il peut y avoir des. C'est assez complexe. Là. Les gens ont souvent des customisations spécifiques à Swagger. Donc, il faut être sûr de bien rapporter ça dans le nouveau système. Là.
Ouais, et d'ailleurs, tu n'as pas l'interface qui est générée automatiquement. Et ils te disent, si vous voulez avoir une interface qui permet de tester vos API, comme se fait Swagger UI, ils disent, utilisez Swagger UI. Bon, enfin.
C'est ça, mais c'est juste un fichier HTML, ça. Donc, c'est pas très compliqué à importer. Oui. Mmh.
DevDevDev.net. Richard Clark.
Ok.
Un petit truc intéressant. Enfin,
ouais.
Là, pour le coup, ça va vraiment. Ça... Alors, c'est du RevPad, et pourtant, ça va s'adresser à la masse. Ça, c'est intéressant. C'est qu'en fait, ils ont pas mal amélioré dans des cas d'utilisation majeurs de Link. Ils ont bien amélioré les perfs. Et y a des exemples où, là aussi, on mettra le blog le blog que j'écris à ce sujet en référence, mais des fois, ça va 10 fois plus vite, 100 fois plus vite. Enfin, sur des petits exemples, mais des trucs bien, bien communs. Alors, comment ils ont fait? Alors, il y a deux grosses optimisations. La première, c'est que dans leur implémentation de Link, ils ont une méthode qui s'appelle tryGetSpan, qui n'est pas pour nous, hein, elle est interne, mais du coup, il faut un peu décompiler pour comprendre. C'est-à-dire qu'en fait, sur la séquence que tu lui donnes, hein, donc le enumerable que tu lui donnes, il va essayer de voir s'il y a moyen d'obtenir un span à partir de cette collection, de cette séquence, pardon, cette séquence n'est pas une collection, enfin, pas toujours en tout cas, et s'il peut avoir un span, ben, il va itérer sur ce span. Mmh. Et là aussi, j'ai écrit encore un autre blog post. Là aussi, si vous avez des cas des loops forts à optimiser, sur lesquels vous voulez vraiment plus de performance, ben sachez que si vous obtenez un span sur le ray ou la liste, par exemple, ça va aller plus vite. Donc en fait, c'est la façon de faire marcher for ou forEach le plus vite possible, encore plus vite que l'utilisation bateau. Juste pour rappel, un span sur un array, c'est facile. Je parle d'un array sur un heap, c'est facile, puisqu'un array, par définition, c'est que ce soit les références ou les valeurs, elles sont contiguës en mémoire, même si parfois ça bouge. Mais par contre, un span sur une liste, c'est un peu plus difficile, parce que rappelez-vous, une liste, elle détient un array en interne. Mais ouais. Si tu commences à ajouter des éléments, l'array peut être sizé, enfin, il ne va pas être sizé, il va simplement être réalloué, un nouvel array, à la bonne taille, plus grande ou plus petite. Et du coup, si toi, tu as ton span sur le ray en interne, ben, ce n'est pas bon. Donc ça, c'est un petit truc à rappeler. Donc pour ça,
après,
il y a des
méthodes... pas un problème ici, parce que vu que tu fais juste du read-only, normalement, quand tu utilises Link Queue, donc tu n'es pas censé arriver dans ce cas-là où tu es en train d'énumérer ta collection après... pendant que quelqu'un est en train de la modifier. C'est que tu as un problème.
Après,
la liste n'est pas prévue pour. Il
faudrait vraiment peut-être chercher le truc. Mais
c'est ça. Mais le type liste n'est pas prévu pour être thread safe, donc... Bah, t'assumes, là,
ouais.
Si tu fais n'importe quoi,
t'assumes,
c'est
voilà,
ton problème.
Si tu fais n'importe quoi, tu peux avoir des bons bugs bien nasty. Donc, encore une fois, span, ils arrivent. Et il y a certains cas d'utilisation, ça va vraiment beaucoup plus vite, hein, des trucs tout simples. Et une autre façon qu'ils ont d'optimiser, bah, en fait, ils se sont créés toute une ribambelle d'itérateurs. Donc, on ne va pas rappeler tout ça. Mais en gros, quand tu fais for each, tu as... Innumerator qui te donne le i énumérable qui va te donner l'énumérateur. Mm-hmm. Okay. Et l'énumérateur, sa fonction, c'est celui qui va être utilisé dans forEach, quand tu utilises forEach dans ton C#, qui va permettre au suivant. Et en fait, on sait tous que Link, c'est souvent utilisé avec des where select, par exemple, le cas d'utilisation le plus bateau. D'abord, tu vas faire ta clause where, après, tu vas faire ta clause select. Et en fait, ils arrivent à détecter au runtime quand tu as ce genre de choses, quand tu as du where qui est directement suivi par du select. Et là, ils vont t'assigner, au lieu d'avoir un itérateur pour le where et un itérateur pour le select, ils vont être capables de t'en donner qu'un seul. Donc ça, c'est un cas d'utilisation, il y en a une quarantaine. Par exemple, si tu fais un truc du type, tu sors ta collection, donc tu vas, je ne sais même plus le mot en français, tu l'as.
Tu la tries, hein.
Du plus petit au plus grand, tu la tries,
Voilà.
bien sûr, voilà. Des tri à bulles, voilà, des trucs d'étudiants. Tu fais ton tri à bulles sur ta collection, et si à la fin tu veux choper le max ou le min, ce qui est un peu bête parce que ça coûte cher de trier, alors que faire le max, avoir obtenir le max ou le min, c'est juste un passage sur ta collection, bah lui, il va être capable de voir ça et il va te mettre un itérateur. Il va skipper le tri, qui ne sert à rien puisque tu récupères jamais le résultat du tri, et il va directement te redonner ton max ou ton min. Okay, donc avec ce genre d'astuces, sur des choses qui sont un peu courantes, bon là moi je serais plutôt partisan de faire un analyseur Roslyn quand tu as un sort et derrière un mid, d'ailleurs il doit exister je pense, mais en tout cas ils peuvent rattraper ça encore, s'ils n'arrivent pas à rattraper ça au compile time, ils vont rattraper ça au runtime et ils vont t'assigner un itérateur plus rapide,
Ouais, il
plus
y a
efficace.
Richard Peur qui te le propose.
Oui, tu as aussi Richard Burr qui
Ouais,
fait.
ouais. Mais donc c'est au runtime qui fait cette
Là, on parle
optimisation,
de
c'est
runtime.
pas
Hein? Ouais, ouais,
d'accord.
ouais, ouais. Là, on parle de runtime. Il y a une espèce de traversal de ta requête link et il va assigner les itérateurs qui vont bien. Enfin, s'il peut en faire qu'un seul, c'est encore mieux. Une autre optimisation qu'ils font, mais ça, je pense qu'il l'avait depuis longtemps, c'est que celui qui implémente IEnumerable et qui implémente iterator, c'est la même classe en fait. Ça évite d'allouer un objet pour en avoir deux.
Oui, j'ai vu, ils ont rajouté aussi un count by, un aggregate by. Donc ça, c'est
Oui, ils rajoutent toujours des petites méthodes comme ça. Je pense qu'il
ouais.
ferait mieux de les rajouter d'un coup. Là. Chaque fois, il y en a un, ça s'amuse à faire des blocs. Oh, imaginez-vous, on a aggregate by maintenant, c'est incroyable. Ça serait bien qu'une fois pour toutes, ils nous les mettent toutes. Et
Ouais.
voilà quoi.
Dans les autres choses qu'ils ont ajoutées, j'ai vu qu'ils avaient rajouté le task.whenEach. Alors,
L'idée de ce truc-là, en gros, à tout ce qu'apprends, ce que les gens font en général, c'est que tu as un task.whenAll. Donc, en gros, quand tu as plusieurs tasks et que tu as envie de les awaiter toutes et de continuer, bah, tu crées tes tasks, alors task.run et un troisième. Puis comme ça, tu as trois tasks qui partent et tu as envie de les attendre. Tu fais task.whenAll de tes trois tasks. Donc là, bah, ça continuera une fois que les trois ont complété. WhenEach, l'idée, c'est de dire, bah, j'ai envie de faire quelque chose dès qu'il y en a une qui est faite. Quelle que ce soit la première, deuxième ou la troisième, pas important, dès qu'il y en a une qui complète, donne-moi le résultat de cette task-là, et puis je vais faire quelque chose, puis après j'attends la suivante, et ainsi de suite. C'est pour ça que c'est un await for each qu'il faut faire dessus. Comme ça, dès qu'il y en a une qui complète, tu as l'instance de la task qui a complété, et tu peux faire quelque chose.
D'accord.
Personnellement, je n'ai pas d'usage de ça pour le moment, mais clairement,
Bon,
je peux
ça
en
sent
voir dans
bien.
certains cas, là.
Ouais, tu peux
Ouais.
imaginer, je sais pas, enfin je dis peut-être n'importe quoi, une interface où tu as trois appels avec une API et tu mets à jour ton interface en parallèle, quoi.
Voir là. Ben,
Ouais.
surtout attendre que le résultat soit. C'est
Tony.
tu pars trois tasks et il faut vraiment que tu puisses faire quelque chose et qu'il y en a une qui est complétée.
Ouais.
Ça. En fait, ce que tu aurais pu faire avec un continue with avant, facilement, tu vois.
Ouais.
Mais c'est un truc que j'utilise pas trop. Donc, je me rends pas bien compte de à quel point ça va résoudre des vrais problèmes concrets. Là. Mais sûrement que les gens vont trouver. Là. Ils l'ont pas
Ouais.
fait pour rien. Donc,
Ils
il y a
doivent
eu de la
déjà
demande avant.
l'utiliser eux-mêmes, je pense, en interne.
Ouais. Possible. De
D'ailleurs,
toute façon, il suffit de
je.
regarder l'issue, hein, tu vois. Enfin, tu sais, ils font pas une méthode sans rien. Là. Si tu regardes l'issue initiale, il y a forcément un use case qui a été présenté et puis ça.
Je vous conseille encore une fois le deep.net sur AsyncAwait, là, avec Stephen Toop. Il explique toute la notion de task, mais c'est
Ouais.
crystal clear, quoi. C'est waouh, c'est propre,
Ouais.
hein, comme jamais. Ouais.
Pour
Ok.
au moins comprendre le concept. C'est pas l'implémentation de .NET, mais le concept, il est clairement
Ah, mais il
expliqué.
parle aussi de l'implémentation, et puis non, c'est beau, hein. Vraiment une superbe explication. Ouais.
Ok. Moi, ce que j'ai eu aussi, bon, il y a tout ce qui touche à l'intelligence artificielle, enfin, tous les nouveaux types. avec des améliorations sur les vecteurs, sur les tensors, etc. quoi. Bon,
Ouais, je suis
ça.
pas sûr qu'on ait grand-chose à dire là-dessus, là. Au
Ouais,
final, je
c'est.
pense que les gens vont surtout utiliser, vont pas forcément utiliser ces types-là directement, mais les abstractions qui sont faites au-dessus, c'est que
Ouais.
ce soit ML.NET ou d'autres choses.
Mmh.
J'ai l'impression que c'est ce qui est fait, ce qui est présenté, c'est plus du bas niveau.
Ouais. Ouais, c'est pas tous les jours qu'on utilise ça, quoi.
Non. Enfin, tu as déjà
J'avais.
utilisé vecteur dans ton code?
Non.
Je pense que ça passerait pas une pull request là, dans la majorité des cas, là.
Oui, j'avais juste un autre truc, c'était le GUI ID. Et bon,
Ouais, ils ont
ils ont.
traduit
Ils...
le V7.
Ouais, c'est ça, la version V7 de la RFC 9562. Ça fait toujours bien ça pendant les repas du soir. Qui permet de créer des GUI ID qui sont
Pliable.
triés suivant la date.
Ouais.
C'est ça. Bah, en gros, l'idée, bah, c'est un grid, ça reste un 128 bits là, qui sont générés bah, semi-aléatoirement, on va dire. Donc, l'idée, c'est que jusqu'à présent, les grids que .NET générait, c'est des grids V4, si je me trompe pas, donc ils sont vraiment aléatoires. Et donc, bah, quand tu génères deux grids et que si tu les tries pendant une database où tu as un ID, tu veux que ce soit ta clé primaire, là, bah, tu vas te retrouver avec beaucoup de fragmentation dans ta DB. Là, l'idée, c'est qu'avec les grids V7, quand tu génères deux grids, ils sont triables par date. Donc, normalement, tu as un ordre. Donc, ça peut éviter de la fragmentation dans les databases en général. Après, il faut faire attention quand même comment c'est envoyé côté database, là, parce que tout le monde ne reprend pas les grids de la même façon en binaire. Tu peux quand même avoir un peu de manipulation à refaire. Celui qui va. Donc ton provider qui va se connecter à ADB ou à un service externe, enfin à la persistance de manière générale, il y a peut-être quand même du réordonnancement à faire dans les bits générés, mais c'est le but au point de départ, c'est avoir des grids qui sont triables.
Vous aviez quoi d'autre, Patrick, t'avais...
Pour moi, c'est bon.
Bon, il y a des petites améliorations quand même. Bah, ils ont racheté un type, le read-only set. Il y avait des read-only collection, par exemple. Bah, ils ont fait un read-only set.
Ah bon?
Tu peux trouver. Bah, ils ont dans les gros changements, il y a la suppression du binary formatter quand même,
Oui.
qui par défaut n'existe plus dans .NET. Il faut prendre un package maintenant, un package externe. Et puis je crois rajouter un petit flag dans le CS proj aussi. Je suis pas très sûr de ça là. Mais de toute façon, la documentation explique si jamais les gens utilisent encore le binary formatter pour. Déjà, faites attention pour la sécurité. Parce qu'il a été supprimé pour ça, donc faites attention à comment vous l'utilisez. Et puis il y a peut-être des meilleures alternatives plus rapides, en vrai. Parce que souvent on dit que c'est pour la perf qu'on l'utilise, mais en vrai, il y a d'autres alternatives qui peuvent être plus rapides. Donc à voir. Qu'est-ce que j'avais d'autre?
La gestion des exceptions.
Ouais, si on passe plutôt au JIT, ouais,
Ouais.
bah quand on lance des exceptions, qu'on les catch, bah avant, on disait souvent que le catch était un peu lent. Éviter de lancer les exceptions pour les catcher juste après. Bon, il faut toujours pas le faire en général, mais c'est beaucoup plus rapide qu'avant de catcher une exception. Ils ont réécrit cette partie-là pour optimiser les.
Ah oui, ils ont réussi à améliorer la perf.
Ouais, j'ai plus le. Faut regarder l'article de Stephen Toom encore là, mais c'est significatif l'amélioration. Hein. C'est pas un petit
La
bug,
prochaine fois,
souvent.
t'invites Stephen Toom, bah, je crois que c'est plus
Ouais,
facile.
va falloir le faire en anglais, fais gaffe, Richard. Il n'y aura pas le choix là.
Ouais,
Et ouais, au niveau du JIT, il y a d'autres améliorations que j'avais. Ça fait plusieurs versions qu'ils améliorent l'inlining de méthode, par exemple. C'est-à-dire que quand tu as une méthode et que dans une méthode, tu appelles une autre méthode, si l'autre méthode, c'est une petite méthode, au lieu de faire un appel de méthode, ils prennent le code de l'autre, ils le mettent directement dans la méthode principale. Et puis comme ça évite un coût, certes pas très gros, mais un petit coût quand même. Mais ça, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont continué d'améliorer ça depuis plusieurs versions. Et cette fois-ci, ça leur a permis de rajouter une nouvelle fonctionnalité qui est bien plus intéressante. Qu'ils avaient déjà essayé, en fait, il y a plusieurs versions, mais les gains étaient marginaux. Alors que cette fois-ci, apparemment, ça a l'air d'être vraiment intéressant. C'est de pouvoir louer un objet sur la stack. C'est-à-dire que normalement, quand tu fais new object ou new ton type, quand c'est une classe, ça la loue sur ton tas, ça en français, sur la heap. C'est ça. Et maintenant, si le JIT est capable de garantir que, enfin, de comprendre que ton objet, il reste local, donc il va pas, et qu'il n'a pas besoin du fait de la louer sur la heap, il peut la louer sur le sur ton sur le sur la pile,
la stack. Pile.
Sur la stack. Fais attention sur toi, Richard. Ouais, ça, il la loue sur la stack, et donc ça évite une allocation. Enfin, ça a plusieurs avantages. Ça évite une allocation, donc le garbage collector n'a rien à faire à ce niveau-là. Mm-hmm. Puis ça permet aussi de dévirtualiser des méthodes, et donc au lieu de faire un appel virtuel pour savoir quel overload, enfin, tous les overrides que tu peux faire, c'est ça. Bah, ça évite de savoir lequel c'est. Vu qu'il a loué le bon objet, il sait exactement quelle méthode il faut appeler. Donc, il peut faire un appel direct à la bonne méthode. Puis, il y a d'autres améliorations qui peuvent rentrer en compte, assez similaires à ce qu'on trouve sur les structs, en fait. Donc, ça peut être intéressant.
Ça peut être un gros travail, ça, hein, je pense.
Ouais. Et donc, bah, l'idée, c'est que maintenant, comme ils inline les plus de méthodes qu'avant, bah, enfin, il y a plus de cas, ils sont capables de garantir que ton objet est vraiment scopé localement et qu'il ne va pas être réutilisé ailleurs. Donc, c'est pour ça que je parlais de l'inlining avant. C'est que bah, maintenant, comme ils ont un scope un peu plus grand dans l'analyse, bah, il y a beaucoup plus de cas où cette optimisation-là, elle ressort et elle se fait vraiment utiliser. Là.
D'accord, très intéressant. D'accord. Je sais qu'ils appellent ça escape, je pourrais en revenir au ref struct. Ils font pareil, mais là, ils font compile time et le compilateur, en anglais, ils utilisent le mot escape, donc s'échapper, on va dire. Et le compilateur, à ce moment-là, il est capable de voir que ça ne va pas s'échapper. Et dans ces cas-là, il peut te donner plus de latitude pour l'utiliser.
OK. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre?
Sinon, bah, les améliorations, bah, ARM 64, forcément, ils ont investi là-dessus.
Ouais.
On ne va pas rentrer dans les détails, mais c'est plein de petites choses par-ci, par-là pour que ce soit un peu plus rapide. Sachant que maintenant, ils ont réalisé leur Snapdragon X Elite, tout ça, là. Bah. Il faut quand même que le reste de l'écosystème suive, on va dire.
Bah, il faut qu'ils arrivent à en vendre, déjà.
Ouais, apparemment.
C'est un autre sujet, ça.
ça ne concerne pas trop, ça.
Ouais.
On verra bien, peut-être à l'avenir.
Ouais.
Puis sachant que, tu vois, il y a quand même beaucoup d'autres devices qui marchent sur ARM. Au final, tu vois, les mobiles, souvent, ça marche sur les plateformes type ARM. Puis, ouais, dans les autres améliorations rapides, bah, il y a plus, pour ceux qui utilisent des vectorisations, genre les SIMD, bah, il y a plus d'instructions. Ils ont commencé à rajouter le support d'AVX 512, pour ceux à qui ça parle. Je ne suis pas sûr que pour le podcast, ce soit le plus pertinent de rentrer là-dedans, mais en gros, ça leur permet, c'est pas forcément pour que nous, on l'utilise, mais dans les classes de .NET, ils l'utilisent aussi beaucoup plus. Et donc, bah, ça permet d'accélérer des méthodes par exemple, quand tu fais un index of sur une string ou un tableau, bah, tu es capable d'utiliser ces instructions-là pour être encore plus rapide.
Mmh.
Donc ça, c'est des choses qui, ça, peut-être, tu n'utilises pas directement, hein, mais tu peux quand même en profiter.
Ils avaient amélioré index of qui, a priori, tu demandes comment ils font. Mais en fait, il y avait des instructions type SIPND qui traitent plein de, je sais plus, 512 bits d'un coup, je crois. Donc forcément,
jusqu'à, avec AVX 512, c'est 512, ouais. Tu as AVX 256, AVX 128.
Ouais. Donc forcément, ça peut aller plus vite.
MS Build aussi, par exemple pour les tests unitaires, avec le support des tests en parallèle.
Ouais, ça c'est vraiment intéressant. C'est, en gros, quand tu as un projet qui est multi-targeté, donc qui target par exemple Net Framework et Net 8 ou Net 9, hein, qui a plusieurs targets, avant, quand on lançait juste .NET Test, bah, il lançait d'abord les tests sur un des targets framework, puis après il en sort un autre, puis sur le troisième, et ainsi de suite.
Mm-hmm.
Maintenant, il est capable de lancer tous les TFM en parallèle. Et donc ça peut sauver pas mal de temps quand on exécute, encore une fois, souvent pour les gens qui font des librairies, parce que dans les applications, on a besoin de multi-targeter, mais dans les libs, ça peut sauver du temps. Là.
Si, si, moi j'ai mes projets, ils sont multi-framework.
Malheureusement. Dans les applications.
Ouais,
c'est assez rare.
Et juste, j'ai vu que... il y avait une session dans la build où ils parlaient d'un nouveau framework de test. Ils en avaient l'air très contents, mais ça fait partie de mes milliards de to-do. Je n'ai pas plus creusé que ça. Tu as des infos là-dessus?
Bah, en gros, ils ont...
vraiment...
Ouais, bah, l'idée, en fait, ce n'est pas forcément... c'est pas le framework de... Enfin, c'est pas les frameworks au sens MS-Test, NUnit, XUnit ou TUnit,
le petit
nouveau qui vient de sortir. C'est vraiment la partie, comment dire, la plateforme là, de test qu'ils ont adapté, donc là, jusqu'à, en gros, ce qui est utilisé par VS Test jusqu'à présent. Mais l'idée, c'est que bah, la plateforme existante est limitante déjà, notamment bah, quand tu veux faire tester avec du trimming ou de l'AOT, ce genre de choses, bah, tu ne pouvais pas vraiment le faire. Donc, ils ont introduit justement cette nouvelle plateforme de faire des tests. Donc, pour les gens, ce sera transparent parce que bah, XUnit va juste commencer à l'utiliser. NUnit aussi, MS Test l'utilise déjà, je crois. Donc, ça va vraiment être transparent. On n'a rien à changer de notre bord. Mais under the hood, ça va être le nouveau système qui va être plus rapide. Et clairement, il parlait de 30% de gains sur la découverte des tests et l'exécution des tests. Pas sur ce que les. Si ton test fait un thread sleep à l'intérieur, ce sera toujours lent. Mais juste la partie vraiment core de l'exécution des tests, il paraît sur MS Test que c'est celui-là qu'ils ont commencé à intégrer avec. Il paraît être 30% de gains à peu près. Là.
Et dans donc, la démo, j'ai vu qu'il parlait aussi de Hot Reload, c'est compatible avec Hot Reload. Ouais. Et c'est aussi compatible, ça va découvrir les tests. Toi, tu es en train d'éditer ton code. Et lui, derrière, il montrait une fenêtre qui disait bah, « Puisque tu modifies ce code, je sais que ça va impacter tel test. Et du coup, quand ton code est compilable à nouveau, automatiquement, tu n'as rien à faire. Il va rejouer le test dans sa fenêtre à lui. Il va les découvrir. » Ce qui est déjà possible avec des outils comme NCrunch.
Ouais, je vais arrêter ma licence NCrunch, c'est ça.
Non, moi, en plus, je connais bien Remco qui est derrière NCrunch, qui fait du super boulot. Mais non, bah après, voilà, après, c'est les gens.
Ouais.
Donc, pour la petite histoire, NCrunch, dans ce qu'il fait, il le fait encore le mieux. Alors, maintenant, il y a ça de nouveau, je ne sais pas. Mais en tout cas, pour ce que je suis sûr, c'est que dans ce qu'il fait, NCrunch, c'est lui qui le fait le mieux. Mm-hmm. Sharper essaye de le faire, Microsoft essaye de le faire. Après, maintenant, avec cette nouvelle chose, enfin, c'est ce nouveau tooling, peut-être qu'il le rattrape.
Et une question, est-ce que j'ai pas vu s'ils avaient parlé du nouveau format là, de fichiers SLN?
SLN X.
Oui.
C'est pas encore live. Hein. J'en avais parlé.
C'est de la bêta encore. Hein.
C'est encore
ouais,
la bêta.
Ils hésitent à le. Ouais, on dirait qu'ils veulent pas. Parce que nous, en tant que tooling, c'est important pour nous parce qu'on doit le lire.
Ouais.
Donc, du coup, je suis de près le truc. J'ai pas encore vu ça RTM. Hein. Il n'y a pas de date, non. Ils n'en parlent pas. J'ai l'impression que ça avait peut-être même fuité d'une manière... peut-être qu'ils ne voulaient même pas qu'on le sache, en fait, je ne sais pas.
Bah, c'est intéressant en Visual Studio, tu vois. Quand tu es dans Visual Studio, tu peux faire Save As dans le nouveau format. Je l'ai fait sur un de mes projets, parce que j'ai eu un conflit sur un SLN. Et je me suis...
En preview, mais pas en live, non?
J'étais toujours VS Preview, donc je ne sais pas
preview,
si c'est
ouais.
Dans la version stable. Okay.
Mais ça ouais,
j'ai eu un conflit
3,
sur une version... J'ai eu mon conflit sur le SLN où je n'avais pas envie de résoudre ça, là, c'est avec les guides et autres. Ce sera l'occasion de tester nouveau format. Je l'ai utilisé, c'est bien plus clean que l'ancien format. Là.
Ok. Bien. Vous aviez d'autres choses à voir ou... Bon, il y a
deux, deux petites choses rapidement, je pense, peut-être trois. Il y a une chose qui a l'air de déranger beaucoup de gens, c'est que Nuget check les dépenses transitives par défaut maintenant
oui.
Pour les problèmes de sécurité.
Mm-hmm.
Donc ça découvre un peu plus de problèmes qu'avant. Donc ça, clairement, ça peut être un bloqueur pour les gens qui migrent au tooling de .NET 9. Bon, après, ça se résout, hein, comme toujours. Il faut mettre à jour ses dépendances ou les dépenses transitives. C'est juste que le tooling n'est pas extraordinaire pour ça, malheureusement.
Oui, et d'ailleurs,
c'est assez rigolo parce qu'on bosse exactement sur ça en ce moment. Non, il dit pas. C'est assez rigolo là. Que t'en parles.
Oui, d'ailleurs, moi, il y a un truc qui m'embête, c'est justement, imaginons que tu as ton projet en .NET 8, quand tu vas dans les dépendances de ton, enfin dans ton Nuget pour voir les packages qui sont obsolescents, il te dit, bah oui, passer en .NET 9 quoi. Tu peux pas dire je veux m'arrêter en .NET 8.
Bah, ça dépend des packages. Tu regardes certains packages, par exemple, si tu prends le Microsoft Citation Logging ou certains packages comme ça, en fait, même si c'est en .NET 8, tu peux utiliser le package en version 9. Il est compatible en .NET standard 2, tu vois. Donc cela, tu peux l'immigrer. Par contre, si tu as une dépendance sur ASP.NET Core version 8, bah, tu peux pas passer à la version 9. Il faut que tu sois sur la version 8.
Et il te met toujours le warning, mais enfin, il met toujours que votre package est obsolète. Bah, quoi.
Si tu utilises un package qui est vulnérable, il va te le dire.
Ouais.
Mais en version 8, tu as une version qui ne doit pas être vulnérable, normalement, vu que c'est toujours supporté.
Oui, sur MPS, oui. Oui, tu avais d'autres choses à rajouter, Gérard?
Sur les .NET Tools, donc quand on exécute un tool, c'est en .NET, Bah, quand tu fais un .NET Tool, en gros, en général, les gens ont envie de mettre une option, ce qui fait que bah, si tu fais un .NET Tool pour .NET 8, si tu exécutes avec le .NET 9, il va te dire bah non, j'ai pas la bonne version, je peux pas l'exécuter. Normalement, quand tu builds ton tool, tu as une option à spécifier pour dire que tu es capable de tourner sur la version au-dessus. Mais comme les gens ne le font pas, parce que bah, c'est opt-in, et que les gens, bah, forcément, tu ne vas pas essayer de faire quelque chose qui n'est pas nécessaire au début ou tu ne le vois pas. Donc bah, maintenant, quand tu lances ton tool, tu as un nouveau flag, genre dash dash hello roll forward, je crois, juste comme ça, qui fait que bah, tu peux lancer un tool, même en .NET 9, tu peux lancer un tool qui était prévu que pour .NET 8. Tu peux forcer le behavior. Donc ça, c'est un petite simplification, on va dire. Ça évite les petits... de devoir réinstaller .NET 8 en parallèle ou de... Bref, ça simplifie les choses. Et le dernier point que j'avais envie de parler, c'était au niveau des MS Build qu'ils ont rajouté. Bah, c'est quand on dit du C-Sharp et les analyzers là, qui disent qu'ils détectent des patterns, des choses qui sont pas bonnes dans ton code et qui mettent des warnings, des suggestions, des erreurs. Ils ont fait la même chose dans MS Build directement. Ça, c'est pareil, détecter certains patterns qui pourraient être problématiques. Encore une fois, c'est pas, si tu fais un MS Build vraiment le plus basique, où tu as juste des Actime References et des packages références et des 3-4 propriétés standards, tu n'auras aucun warning. C'est plus si tu fais des choses plus avancées que plusieurs TFM, Target Framework Monitor, etc. Bah là, potentiellement, il peut trouver des choses pour t'aider à améliorer ton script et éviter des erreurs. Je crois que pour le moment, il y a juste deux règles qui ont été mises. C'est plus mettre en place le mécanisme, prouver que ça marche, là. Puis ils vont sûrement builder d'autres règles pour les futures versions. Hein. Donc, attendez-vous plus sensiblement à des warnings, plus de warnings en .NET 10.
Oui, l'année prochaine, je pense que pour le 10, ils vont essayer de faire quelque chose d'un peu...
Ouais, dans les issues, il y avait des idées. C'est juste une question de mettre en place le tooling déjà. Juste mettre une règle ou deux, histoire de dire que okay, ça marche, on a validé. Puis maintenant, ils vont pouvoir builder là-dessus.
Ok. Et alors moi, je voulais rajouter quelque chose qui est super important. C'est la possibilité maintenant avec Roseline de pouvoir analyser ton string pour voir si tu dis que c'est du JSON ou si c'est du XML ou du C#. Et comme quoi, il est valide ou il n'est pas valide.
C'est pas nouveau, techniquement. Ça existe déjà depuis au moins une version.
Ah bon?
Pour le JSON, ouais, ça existe au moins depuis c'était la version C# 12 qu'il avait.
D'accord, mais là, je dis ça parce que je vois ton post. Là. Ouais. Ton post, il date du 18 novembre, alors.
Ouais, je sais, mais c'est juste que... Pareil, toi, les regex qui sont highlightés, c'est pas nouveau, ça date d'il y a une ou deux versions. Mais ils ont... Ouais, ça, le highlighté du C#, c'était rajouté récemment dans Roseline. Mm-hmm. Pareil, c'est juste c'est du tooling Roseline, ça. C'est pas... Si tu utilises Rider, tu n'utilises pas... Ça n'a rien à voir, là. Donc, ça profitera pas de ça. Les drivers supportent d'autres, plus de langages en highlight, enfin, peut highlighter plus de langages que Roseline, mais c'est déjà une bonne amélioration. Hein.
Ouais,
en effet, tu peux même mettre des Roseline, mais même des warnings de compilation quand tu as eu JSON invalide, tu as dit que tu voulais des options spécifiques.
Oui, non, mais moi, j'ai un projet où on génère dynamiquement du code à partir de ce qu'a fait la personne, quoi. Donc, on a un string où on déclare la classe, on fait un public class, etc. Et donc, du coup, avec ça, on peut avoir, même à l'intérieur de son string, de la coloration syntaxique pour voir ce que c'est plus sympa, quoi. C'est pas fondamental comme.
Non,
comme
mais c'est agréable quand même. Ça permet facilement de voir quand tu fais une erreur, t'as oublié une accolade, tu le vois tout de suite. Là, que justement la coloration marche pas. Donc tu fais ah, mince, j'ai oublié quelque chose quelque part. Puis tu peux le fixer rapidement.
Ok, bon. Eh ben, écoutez, je crois qu'on a fait le tour. Enfin, il y aurait encore beaucoup de choses
à dire encore.
Oh, ouais.
Il y a les blog posts qui sont publiés déjà. Donc, si tu veux aller un peu plus loin, voir ce qui s'est passé dans la cryptographie, dans le HTTP client, les search values qui ont été améliorés, les regex qui ont été améliorés, tout ça. Mais déjà, les articles sont publiés dans les Wax New. Là.
Ok, bon. Bah, écoutez, merci messieurs pour ce podcast très intéressant. Je vais pouvoir aller prendre mon deuxième cachet d'aspirine.
Pas 4 heures entre les deux, normalement. Il y a pas un petit délai. On peut faire 3 heures encore, si t'as envie.
Bon, bah écoutez, et puis bah, on se retrouvera certainement en novembre ou en décembre de l'an prochain pour parler de C Sharp 14 et de .NET 10.
Avec plaisir.
Allez, ciao.
Bye. Ciao.